Chers auditeurs, chères auditrices de de Résistance Radio Galère 88.4, ce soir, j'ai choisi de vous parler du rapport Benjamin Stora. Je voudrais d'abord présenter Benjamin Stora. On va parler de l'Algérie ce soir, puisque le rapport Benjamin Stora est un rapport qui est sorti à la demande du président de la République en janvier 2021, donc il n'y a pas longtemps du tout. On va voir que ce rapport n'arrive pas en ce moment même sous les feux de l'actualité pour rien, qu'il est arrivé à une période charnière dans les relations entre la France et l'Algérie, deux États qui ont vécu un passé commun, un passé qui est fait de colonisation, de déchirure, de guerre, de violence, mais aussi d'amitié. Et on va essayer de déterminer avec Benjamin Stora, de manière très humble, puisque les problématiques ne sont encore loin d'être réglées, de quelle manière, justement, ces rapports d'amitié peuvent émerger et être mis en valeur jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à supplanter les vieilles querelles qui opposent encore l'Algérie et la France et qui font que nulle part, que ce soit dans notre société à nous en France ou dans la société algérienne elle-même, on avance vraiment comme on veut. Et j'insiste bien là-dessus, une émission pendant laquelle on parle 50 minutes, c'est rien du tout par rapport à l'immensité du problème. Il faudrait faire plein d'émissions. Et puis un rapport non plus, ça ne suffit pas, je voudrais juste le dire. C'est juste, je pense, le rapport Benjamin Stora arrive à un moment où une phase des relations franco-algériennes c'est terminé. Lorsque la France a colonisé l'Algérie, et puis elle se termine. Cette première phase, elle se termine, j'allais dire, sous la présidence François Hollande, puisque sous cette présidence-là. On donne suite à de nombreux appels qui ont été faits et de nombreuses allusions faites par les présidents de la République française qui ont été présidents avant François Hollande, mais des présidents de la République qui ont essayé de faire des pas. Mais des pas qui étaient très très légers parce que la situation était tellement tendue et tellement complexe qu'ils n'ont pas pu avancer correctement. Il y a une avancée sous Mitterrand. À chaque président de la République, il y a eu des avancées de toute façon. Il y en a eu sous François Mitterrand, il y en a eu sous Valéry Giscard d'Estaing, il y en a eu sous Nicolas Sarkozy. Et puis sous François Hollande, on va un petit peu plus loin. Et c'est à partir de la présidence Macron qu'on commence réellement à envisager que la France puisse prendre la mesure, d'une part, de l'impact qu'a pu avoir la colonisation sur la guerre d'Algérie, ainsi peut-être que des erreurs que la France a pu faire. Et c'est ce qui explique que ce rapport Benjamin Stora et d'autres avancées, comme par exemple l'ouverture de certaines archives dont on parlera tout à l'heure, moi je dirais que c'est cette période-là, à partir d'Emmanuel Macron, on commence une nouvelle phase dans les relations franco-algériennes. Il y a eu la guerre, et puis après le grand silence, puis le début de l'ouverture, et puis à partir d'Emmanuel Macron, il y a le début d'une reconstruction des relations franco-algériennes, avec un contexte un peu particulier, une France qui a subi des actions terroristes sur son territoire, et puis du côté algérien, une Algérie qui est marquée, bien entendu, par une révolte de la part du peuple algérien qui veut en finir avec un pouvoir militaire trop autoritaire. Et on va voir que des deux côtés, que ce soit en France ou en Algérie, les problématiques sociétales de chacun de ces pays ont souvent un rapport avec l'autre. Ce sont deux pays jumeaux, c'est très intéressant leur relation. Démêler les fils de la relation entre ces deux pays, ça permet de mieux comprendre comment on fonctionne et ça nous permet aussi de bien comprendre que plus qu'avec n'importe quel autre État, la France a tout à gagner à maintenir des relations d'amitié avec l'Algérie et j'allais dire des relations de coopération. Ça, c'est crucial et ça ne va pas se faire tout de suite, mais ce fameux rapport Stora est un premier pas. Donc, un premier pas depuis cette fameuse année de 1830 où l'Algérie est colonisée par la France et jusqu'à 1962, année de l'indépendance du pays. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire de l'Algérie française, je voudrais juste parler de Benjamin Stora pour le présenter. Il est né le 2 décembre 1950 à Constantine, en Algérie. C'est un historien français qui est professeur à l'université Paris 13. Et ses recherches portent sur l'histoire de l'Algérie et notamment sur la guerre d'Algérie. Plus largement sur l'histoire du Maghreb contemporain et sur l'empire colonial français et l'immigration en France. Donc on verra que le panel de ses activités et de ses recherches est très étendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'intéresse à la fois à une problématique franco-française, qui est le phénomène d'immigration, mais il s'intéresse également à d'autres thématiques qui impliquent la France dans des pays étrangers. L'empire colonial français, la guerre d'Algérie et puis bien sûr l'histoire d'Algérie qui est aussi un peu son pays puisque Benjamin Stora y est né. Donc il fait partie de ces Français qui ont vécu dans l'Algérie française, qui avaient la citoyenneté française et qui ont dû pour beaucoup partir du territoire algérien pour retourner en France à l'indépendance de l'Algérie. Donc on reparlera de cette déchirure. C'est pas la seule déchirure qui a marqué la problématique de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, mais c'en est une qui est très importante et qui marque aussi notre pays. Donc, il est docteur en histoire en 1978 à l'école des hautes études en sciences sociales. C'est un chercheur qui est internationalement reconnu. Son œuvre, son travail est incommensurable et très très important. Par exemple, il a co-dirigé avec Abdelwahab Medeb une somme encyclopédique sur l'histoire des Juifs et des musulmans. Puisque lui-même est juif et Abdelwahab Medeb musulman. Donc dans la lignée de cette époque de l'Espagne de la Reconquista, d'avant la Reconquista, l'Espagne musulmane où les chercheurs et les universitaires musulmans, juifs et chrétiens travaillaient ensemble. Donc c'était une époque bénie. Donc il fait partie de cette école-là en fait. Hein. Voilà, il a été conseiller historique pour certains films, par exemple Indochine de Régis Varnier, l'adaptation pour le cinéma du roman d'Albert Camus et du film Les Hommes Libres, qui a été présenté au Festival de Cannes en 2011. Avant Nicolas Sarkozy, il avait une émission consacrée au Maghreb sur France Culture et il menait un cours à Sciences Po Paris. En 2009, il a été chargé d'organiser une exposition sur Albert Camus à Aix-en-Provence et il va être évincé du projet en juillet 2012. C'est dire si derrière ses recherches et derrière les thématiques qui sont explorées autour de l'ancienne Algérie française ou de la guerre d'Algérie ou de l'Algérie actuelle, il y a en France des tabous, puisque c'est souvent, puisque effectivement... lorsqu'on fait une exposition sur Albert Camus en France, on prend des gants et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et je rappellerai que la mention de l'histoire de la guerre d'Algérie dans les livres d'histoire à l'école et au lycée a mis très longtemps à exister. Voilà, donc ce qui n'a pas empêché de toute façon Benjamin Stora de continuer ses activités qui sont riches, variées et multiples. Il a été commissaire général des expositions La France en guerre d'Algérie avec Jean-Pierre Rioux et Laurent Gervereau à l'Hôtel des Invalides en 1992. Il a participé à l'exposition Juifs d'Algérie au Musée d'art et d'histoire du judaïsme qui s'est tenue de septembre 2012 à janvier 2013. Ce musée est à Paris, vers les archives nationales. Il a participé au projet Maison de l'histoire de France en 2012, mais ce projet va être abandonné par la ministre de la Culture Aurélie Filippetti. C'est à savoir que toutes ces expositions, souvent, ont des enjeux très politiques. Hein. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qui disparaissent ou qui s'arrêtent quand ça devient trop remuant. Il a travaillé également sur, il a fait partie d'une commission temporaire d'information et de recherche historique sur les événements de décembre 1959 en Martinique et de décembre 1962 et de mai 67 en Guadeloupe. Il va être nommé en, le 1er août 2014 président du conseil d'orientation de l'établissement public du Palais de la Porte Dorée, qui inclut la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, sous Manuel Valls, Premier ministre. Voilà, il est nommé membre du conseil scientifique de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, présidée par Dominique Schnapper en février 2016. Le 24 juillet 2020, le président Emmanuel Macron le reçoit et lui confie une mission sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, afin de favoriser la réconciliation entre les peuples français et algériens. Un grand mot qui cache beaucoup de choses, derrière lequel il y a énormément d'enjeux, je voulais dire. Le rapport sera donc remis en janvier 2021, comme je le disais tout à l'heure, et il préconise plusieurs initiatives scientifiques et mémorielles, on va le voir tout à l'heure. On va le voir tout de suite même. Voilà pour Benjamin Stora. Donc je vais parler maintenant un petit peu du rapport. Donc le rapport commence par faire un historique. Un historique qui est très important parce que ça permet de rappeler aux lecteurs différentes choses qui sont arrivées pendant l'épisode de la colonisation et de la décolonisation. Et donc dans la partie 1 de ce mémoire, il parle de l'Algérie, impossible oubli. Impossible oubli pour qui ? Ben, pour plein de gens. D'abord, il y a pour les gens qui vivaient sur le territoire français à l'époque de la guerre d'Algérie, qui entendaient parler de la guerre d'Algérie, et notamment des tortures. Et donc, j'allais dire que beaucoup de Français qui vivaient sur le territoire de la métropole et qui n'avaient jamais mis les pieds en Algérie ont pris parti contre ceux qui torturaient. Ensuite, impossible oubli pour qui ? Ben, pour les Algériens qui ont vécu la guerre d'Algérie, dont certains sont lors de laquelle certains ont laissé la vie ou d'autres se sont battus et beaucoup ont subi. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont subi. Après la guerre d'Algérie et l'indépendance, ils ont subi autre chose. Ils ont subi une certaine forme de dictature, mais ils ont subi aussi la guerre d'Algérie. Et puis ensuite, enfin, ben, il y a les pieds noirs. Donc les pieds noirs qui, eux aussi, ont eu du mal à oublier l'Algérie. L'Algérie qu'ils ont dû quitter, souvent... de manière panachée, c'est-à-dire qu'on les a mis dehors quelque part, c'est ce que je... Comme la guerre d'Algérie ne s'était pas bien déroulée dans le calme, les politiques ayant à l'époque, je pense, beaucoup de mal à concilier les partis, il y avait tellement d'enjeux qui étaient importants que finalement il y a eu, j'allais dire... Même si le général de Gaulle et ses ministres s'en sont quand même sortis, ils ont fini par s'en sortir. Mais la guerre d'Algérie, disons-le franchement, aurait pu mieux se terminer si elle avait été gérée de manière peut-être moins conciliante avec certaines parties. Et puis, si on avait été plus franc et si on avait tout de suite, au lieu de conserver, d'essayer maladroitement de conserver certains acquis, donc c'est là que je parle de certaines parties qui ont fait obstacle à ce qu'il y ait un règlement pacifique des différends, si on avait réussi à mieux concilier tout ça, il y a moins essayé de s'agripper aux intérêts de certaines minorités, ça serait beaucoup mieux passé. La France aurait pu continuer à évoluer sur le territoire algérien et constituer un binôme en coopération sur les plans économiques, politiques, voire militaires, puisque ce binôme-là, on le sait, il a existé pendant les deux guerres mondiales. Les Algériens ont beaucoup aidé la France à se battre en 1914-18, mais aussi à mettre les Allemands dehors en 1945. Ce partenariat aurait pu continuer dans la bonne humeur, au lieu qu'il y ait deux armées différentes qui se sont plus ou moins affrontées. Et puis, quoique, effectivement, l'Algérie ne s'est pas. L'armée algérienne n'était pas encore constituée pendant la guerre d'Algérie, mais là j'allais dire quelque chose avec lequel certains historiens me contrediront peut-être, de dire que l'armée algérienne telle qu'elle est aujourd'hui existait déjà avant, pendant la guerre d'Algérie et même peut-être avant. Il n'y avait pas que des félagas et des maquisards, il y avait une véritable armée. Et donc c'est là que je dis que si on avait mieux pris les choses, nos deux armées auraient pu s'entendre. Après, cette armée-là est devenue officielle, c'est devenue l'armée du Front de Libération Nationale, qui est encore aujourd'hui au pouvoir en Algérie. Et je pense que ça serait beaucoup mieux passé, qu'on n'aurait pas eu une dictature en Algérie, si il y avait eu coopération plus tôt. Sur le plan économique, il est évident que l'Algérie, comme la France, avait tout à gagner à conserver une coopération économique, au lieu de laisser se réaliser une brisure, puisque à l'arrivée de Ben Bella au pouvoir en 1962, ce dernier décide, peut-être par fierté, par orgueil, et peut-être pour montrer qu'il n'était pas, que c'était pas les Français qui continuaient à commander chez lui, à s'aligner sur l'économie soviétique. Et ça a suscité de graves troubles et dysfonctionnements dans l'économie algérienne, pour la bonne raison que l'Algérie a privilégié d'abord ses industries lourdes, négligeant tout un pan de l'économie nationale qui commençait d'abord par ce qui est le plus important en économie, pour qu'on, je l'ai suffisamment dit dans plusieurs émissions, pour qu'une économie fonctionne bien, on commence d'abord par le territoire, et sur le territoire, on commence d'abord par l'agriculture, pour être autosuffisant sur le plan alimentaire. Or, en Algérie, on a manqué ce coche-là, alors même qu'on avait quand même l'exemple de l'administration française qui avait su avoir tiré profit d'une terre riche et d'un pays immense pour avoir une agriculture foisonnante à l'époque de l'Algérie française. Malheureusement, on n'a pas voulu suivre cela. Cela aurait été intéressant et on aurait pu s'occuper de nos localités en conservant l'identité de chaque territoire et en mettant en valeur les spécialités de chaque territoire algérien sur le plan économique et sur le plan des exportations. Non sans avoir préalablement, bien entendu, comme il se doit dans toute économie qui commence par le commencement et qui fonctionne bien, par assurer le bon équilibre du marché intérieur. Alors que là, il s'est passé le contraire. On a beaucoup importé d'Algérie, on n'a pas importé de n'importe où et on a eu beaucoup de pénuries parce que forcément, lorsqu'on importe la grande majorité des denrées alimentaires et qu'on importe uniquement peut-être avec de la part de pays communistes, c'est ce qui s'est passé dans les années 60, on ne peut pas s'attendre, on fonctionne un peu sur le modèle soviétique et je me souviens avoir fait la queue pendant une journée complète pour acheter du café à Alger. Ou à Tizouzou, je ne sais plus, mais enfin, voilà, ça a duré jusqu'aux années 80, ces pénuries. Puis après, bien entendu, il y a eu d'autres pays qui se sont un peu occupés, parce que mondialisation économique aidant, forcément, et notamment par l'intermédiaire de la Chine, qui a beaucoup investi en Algérie, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui se sont installées en Algérie. Après, ça s'est un petit peu arrangé. Mais cependant, il y a eu toute une période pendant laquelle l'Algérie a vivoté sur le plan économique. Et s'il n'avait pas eu ses ressources pétrolifères, des ressources assez importantes en pétrole dans le Sahara, sur son territoire, elle ne s'en serait pas sortie du tout sur le plan économique. Mais comme on l'a déjà expliqué, en économie du développement, on vous apprend toujours que les ressources énergétiques, même si elles génèrent de l'argent et des ressources financières, d'abord, dans les pays africains, c'est pas toujours une bonne chose parce que ces ressources financières-là, elles sont pas toujours utilisées pour moderniser et développer le pays, mais plutôt pour garnir les paniers de l'élite. Et puis ensuite, parce que on a beau avoir de l'argent et vendre du pétrole et avoir plein d'argent, ça ne crée pas une économie. Une économie, ça se crée, comme je le disais tout à l'heure, en commençant par mettre en avant l'identité des territoires, mieux comprendre comment fonctionne chaque territoire, quelle est son histoire, son identité, et ensuite tirer profit des ressources de ce territoire. Et les ressources sont d'abord les ressources naturelles, pas les ressources pétrolifères, énergétiques, mais je veux dire, j'entends par ressources naturelles, bah bien entendu, l'agriculture, c'est le numéro un. Et puis ensuite, à partir de l'agriculture, bah on peut continuer, on peut, après avoir inondé le marché intérieur, satisfait le marché intérieur, exporter. Et puis après, il y a un effet boule de neige qui se crée. Et si, le conflit algérien avait été un peu plus positif, s'il y avait eu moins de haine, moins de rancœur, moins de querelles, eh bien, et des mesures politiques d'entente pour, après une période de transition, permettre une vraie, véritable coopération entre gouvernements autonomes de part et d'autre, on aurait pu faire un vrai partenariat économique. La France en aurait été plus riche. La France n'aurait pas subi la crise énergétique comme elle l'a subi dans les années 70. Elle aurait été beaucoup moins touchée par le double contre-choc pétrolier, puisque s'il y avait eu des accords de coopération entre France et Algérie, l'Algérie aurait pu devenir le principal fournisseur de la France en ressources énergétiques. Et elle aurait pu peut-être privilégier la France sur la fixation de ses prix et ne pas s'aligner sur les pays de l'OPEP. En ce qui concerne la France, les exportations en France notamment. Donc Donc on n'aurait pas plongé dans une telle crise dans les années 70 qui a conduit beaucoup d'entreprises à faire faillite et à licencier. Et puis ensuite, d'un autre côté, après ce licenciement, a donné carrément les entreprises françaises qui restaient aux grandes multinationales dans le cadre de la mondialisation économique, puisque c'est bien ce qui s'est passé. Et puis, vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas une seule grande entreprise en France qui ne s'est pas fait à moitié bouffer par les multinationales, donc par des rachats ou des partenariats qui souvent sont de faux partenariats. Donc voilà. Et puis ensuite, deuxième chose, la France ensuite, dans les années 80-90, n'aurait pas subi de plein fouet l'impact de cette fameuse crise qui l'a conduit à mener des politiques de rigueur qui ont été très préjudiciables à la fois à notre société, puisqu'il y a eu beaucoup de chômage, et il y a le quart-monde qui est arrivé. On aurait évité le quart-monde, on aurait évité le chômage, on aurait évité la crise des années 70, puis la stagnation de l'activité qui en a résulté. On aurait beaucoup moins de retard de développement en France, aussi bien qu'en Algérie, si le conflit algérien avait été réglé de manière un peu plus positive. Après, quand on lit le rapport Benjamin Stora, on se rend bien compte que les parties en place sont très nombreuses, que la question est très complexe, qu'avant de régler ce problème, avant de régler tout ça, il va bien falloir attendre une période qui, j'allais dire, mettra entre 10, voire peut-être même 20 ans, mais on sait où sont les mots. Donc, à partir du moment où on a compris où étaient les mots, eh bien, on peut envisager des remèdes. Et c'est ce que fait Benjamin Stora. Il commence par nous parler de l'histoire de l'Algérie française, puis de la guerre d'Algérie, et il nous parle des mots. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, il va faire émerger quelques solutions. Donc, dans son historique, bien sûr, il nous parle de la représentation du passé. Il nous dit que la représentation du passé n'est pas un acte anodin, que c'est un acte qui est très complexe, qui est très chargé, qui est très lourd, parce qu'il touche à plusieurs personnes qui ont été traumatisées. Donc il cite les soldats, les officiers, les immigrés, les harkis et les pieds noirs, et puis les Algériens nationalistes. Et il nous dit que les représentations de chacun de ces groupes sont souvent, parfois, en contradiction avec des discours dominants et officiels. Donc on a un décalage. On a un double décalage. Un décalage entre les groupes de personnes traumatisées et un décalage entre l'ensemble des groupes des personnes traumatisées et les discours dominants et officiels des deux États. Donc, il nous dit que les relations entre les deux pays restent, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, difficiles, complexes, tumultueuses, que La rédaction commune d'un manuel scolaire n'est pas envisagée. Il nous parle que le traité d'amitié, à la suite de la visite de Jacques Chirac à Alger en 2003, n'a pas été à l'ordre du jour. Il nous parle des polémiques sur le passé, de la conquête coloniale française au XIXe siècle, et puis de la guerre d'Algérie, qui ne cesse de rebondir. Et il nous parle de querelles incessantes, et il nous dit quand même, parce qu'il est quand même positif, qu'il est possible de voir la panne de projets d'avenir entre les deux pays, mais qu'on peut envisager des solutions. Et c'est ce qu'il racontera dans sa deuxième partie. Mais il dit que c'est difficile. Il n'est pas irréaliste, Benjamin Stora. Il nous dit que c'est difficile et il parle en connaissance de cause parce qu'il connaît très bien la problématique franco-algérienne. Je crois bien d'ailleurs qu'il n'y a pas très peu de gens qui sont capables d'en parler en tenant compte de toutes les dimensions de la problématique. Donc, voilà pour les grandes idées du rapport. Donc, il y a eu des avancées, et notamment, je vais parler d'autres avancées, mais il y a, en 2005, il y a eu une loi qui reconnaissait en France l'aspect positif de la colonisation. Et il y a une pétition qui a été lancée par des historiens, chercheurs et enseignants et qui refusait cette loi. Donc elle a été déclassée par décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2006 au motif que le contenu des programmes scolaires ne relevait pas des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution attribue au domaine de la loi. Donc cette disposition n'a donc pas pu être une loi, c'est devenu un règlement. Et puis, elle a été définitivement abrogée par décret du 15 février 2006. Donc, c'est dire. Et elle a été accusée, cette loi, de ne pas prendre en compte toutes les mémoires de la guerre d'Algérie. Cette phrase prouve que du côté français, on n'est pas encore prêt à travailler sur une réconciliation nationale qui mettrait au clair les bienfaits et les méfaits de la colonisation, ainsi que les guerres qui s'en sont suivies. Et dans une perspective de mise en avant de la vérité, ainsi qu'une ouverture au dialogue pour la paix. Le rapport Stora est donc, comme je le disais, un début de processus qui vise à engager ce dialogue, mais ce n'est qu'un petit début qui est encore très ténu. Alors, après, il nous parle de tous les travaux d'historiens qui ont été faits. Il évoque... pêle-mêle, hein, je vais en citer quelques-uns. Linda Amiri, qui décrit comment les immigrés algériens étaient vus à travers les archives policières françaises, notamment celle de Maurice Papon, préfet de police à Paris à l'époque, qui, je le rappelle, il avait joué un rôle très important pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la milice. Un autre historien, Omar Carlier, s'interroge sur le rôle de la violence dans l'histoire algérienne. Abdelmadjid Merdassi explique pourquoi la ville de Constantine n'a pas participé à l'insurrection au 1er novembre 1954. Gilbert Meynier relate les oppositions entre le messalisme, donc de Messali Hadj, une grande figure nationaliste algérienne, et le Front de Libération Nationale. Il indique les sources idéologiques de l'affrontement. Donc c'est dire si... C'est complexe, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs dimensions, que rien qu'avec une de ces dimensions-là, ça pourrait prendre toute la vie d'un historien ou d'un sociologue. Abdelkrim Badjaja, archiviste témoin, donne un aperçu sur les archives algériennes à travers le monde, un inventaire de la production des savoirs les plus récents. Et Benjamin Stora nous dit, 60 ans après, par le travail historique, la pluralité des motivations émerge peu à peu derrière les positions frontales et catégoriques que l'on a dessinées à grands traits après 1962 entre adversaires et partisans de l'Algérie française. La guerre d'Algérie, sombre période de la conscience nationale, sort ainsi des turbulences passionnelles et du traumatisme collectif pour s'offrir enfin à l'examen de l'historien. Et là, il nous parle des retours de travaux historiques qui s'accélèrent grâce à l'ouverture d'archives, en particulier en France, parce qu'il y a aussi des archives, bien beaucoup même en Algérie. Donc, dès 1992, les archives militaires à Vincennes et les archives de l'ECPA, les archives, c'est-à-dire les archives photographiques de l'armée française, sont ouvertes avec un fonds gigantesque de 300 000 documents, donc photos. Il y a des thèses, plein de thèses qui sont faites dès 1992 à partir de cette ouverture d'archives. L'archive, c'est la manne de l'historien. Et donc ça, c'est un premier pas. Donc ce que veut bien nous faire comprendre Benjamin Stora, c'est qu'on ne peut pas comprendre le conflit algérien et les problématiques qui aujourd'hui marquent les rapports entre la France et l'Algérie seulement sous l'angle des pieds noirs d'un côté, des partisans de l'Algérie française d'un côté, et puis celui des partisans de l'Algérie indépendante de l'autre. On n'est plus en 1960. Le problème est beaucoup plus complexe que cela. En plus, ça englobe l'histoire et les problématiques de deux pays différents. Donc c'est dire si c'est complexe, même si la période historique en question est quand même relativement restreinte, puisqu'elle court, on va dire, on va commencer en 1954, début de l'insurrection algérienne, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 60 ans. Mais en 60 ans, il y en a des choses à dire. Voilà. Donc, je vais passer un peu de musique quand même, parce que c'est important de se détendre. Et j'ai choisi ce soir de passer l'hymne algérien.
Thank you. c'était l'hymne algérien. Donc c'est pour dire, Benjamin Stora, dans son rapport, va nous parler des effets de la colonisation en France. Il nous dit que la longue présence coloniale française, donc 132 ans, a transformé les paysages ruraux, favorisé l'entrée de la langue française dans des zones urbanisées, folklorisé la langue arabe et fabriqué l'émergence d'une élite d'Algériens musulmans qui, tout en voulant préserver la foi musulmane et la langue arabe, s'est imprégnée des valeurs républicaines portées notamment par la Révolution française, pour les retourner contre la France coloniale. Les livres autobiographiques des grands leaders nationalistes algériens, comme ceux de Messali Hadj, de Ferhat Abbas ou de Hossein Aït Ahmed, sont là pour en témoigner. La non-reconnaissance par la France d'un nationalisme algérien politique et indépendant, dès les débuts, celui de Messali Hadj, celui qui avait créé l'Étoile nord-africaine, c'est lui qui a fondé les premières grandes organisations politiques du nationalisme algérien, n'a jamais pu discuter avec tous les responsables gouvernementaux successifs et il est resté plus de 30 ans emprisonné. C'est bien le symptôme d'une fracture profonde et je pense entre autres que parmi les causes qui ont fait qu'il y a une absence de reconnaissance du politique en Algérie, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les partis politiques s'exprimer comme ils voudraient. Et puis d'un autre côté, beaucoup de partis politiques ne sont pas démocrates, alors que la nature de la France, c'est de l'être, puisque la nature de l'Algérie, c'est d'être démocrate, puisqu'elle fait partie, de par son histoire, du bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen, c'est le bassin où est née la démocratie. En fait, souvent, on croit que la démocratie est née à Athènes, mais non, pas du tout. La démocratie n'est pas née uniquement à Athènes, elle est née en même temps, sur tout le pourtour méditerranéen, de manière simultanée. C'est, par exemple, en Algérie et dans toute l'Ifrique, il y a donc l'ancien territoire qui regroupe l'actuelle Tunisie, une partie de la Libye, une partie l'actuelle Algérie et l'actuel Maroc. Tout ce territoire-là s'appelait autrefois l'Ifriqiya. C'est l'Afrique et c'était le monde avant les. C'est un territoire qui a été envahi plusieurs fois, d'abord par les Turcs, ensuite par les Arabes et ensuite par la France. Par la France ou pour d'autres pays, par d'autres pays européens. Et donc, cette portion de territoire-là, après, on a subi ensuite le découpage en frontières. Mais au départ, c'était un unique et même bloc. D'ailleurs, souvent, nos dirigeants français ou européens, quand ils essayent de réguler les problématiques politiques dans les pays de l'actuel Maghreb, je pense entre autres à la Libye, ils raisonnent pas sur la base des bons postulats. Parce que ils raisonnent sur une base erronée, parce qu'ils s'arrêtent à l'époque où les frontières actuelles ont été construites. Alors que pour bien comprendre les problématiques l'Afrique du Nord, il faut se poser d'abord et avant tout comme dimension et comme angle de vue sur les territoires tels qu'ils étaient et leur identité réelle. Et cette identité va au-delà des frontières. Elle se fout des frontières. Et par exemple, dans le monde berbérophone, j'allais dire, donc à l'époque de l'Antiquité, lorsque la démocratie naissait à Athènes, elle naissait de la même façon de l'autre côté, en face de la Méditerranée, donc au Maghreb, ce qu'on appelait l'ancienne Ifriqiya. Et par exemple, on en trouve beaucoup de résurgences. Par exemple, chez les Berbères de Kabylie, existe le système d'organisation qui s'appelle les arches. C'est-à-dire, ce sont des assemblées et de confédérations, un peu sur le modèle kurde, défendu par certains partis politiques kurdes, qui consistent sur des formes de confédérations. On commence par l'unité la plus petite, la tribu, ou alors on dit encore le village ou le douar actuellement, mais à l'époque on disait la tribu, le village ou la cité. C'est le modèle de la cité athénienne, ce sont des tout petites entités, avec un modèle démocratique, un vote à main levée pour chaque représentant de chaque famille. Et puis ensuite, on se regroupe entre villages et cités du même territoire. Et puis ensuite, on se recoupe au niveau territorial, au niveau régional. Et puis, par exemple, des gens comme Kadhafi, dans son livre vert, dans les années 70, avant de prendre le pouvoir, il avait écrit un livre qui s'appelait « Le livre vert », où il raisonnait, Il parlait de son pays. Il avait très bien compris comment il fallait faire fonctionner son pays pour que ça marche. Il reprenait les mêmes choses. Pourtant, la Libye, c'est pas la Kabylie. Donc, ça veut dire que ce modèle-là de fonctionnement démocratique existe sur tout le pourtour méditerranéen. C'est le même que la cité grecque d'Athènes. Et c'est un mode de fonctionnement démocratique qui, de cité en fédération puis en confédération de tribus, finit par aboutir au niveau national. Donc bien sûr, le niveau national n'existait pas dans l'Antiquité. C'est nous qui l'avons créé. Au Maghreb, c'est moins, je pense, l'islam, parce que l'islam a quand même joué un rôle très important dans le dépassement du raisonnement par tribu, par la création d'un État unitaire, celui de Médine que Mahomet a créé, en Arabie Saoudite. Au Maghreb, c'est moins l'islam, je pense, qui a suscité la création des États-nations avec des découpages tels qu'ils sont aujourd'hui, que le colonisateur, qui lui a fini définitivement par mettre des frontières en place. On va dire que l'islam a commencé par l'invasion des Arabes et des musulmans au Maghreb, et puis que la France ou les autres pays colonisateurs ont continué l'œuvre. Mais il reste cette composante que souvent on occulte et qui fait que, en l'occultant, eh bien, on n'arrive pas à régler les problématiques. Kadhafi avait très bien compris ça. Il avait imaginé ce même système. Il l'avait fait remonter jusqu'au niveau national. Ça permettait à chaque tribu, chaque territoire de s'exprimer. Et on avait, comme ceci, une cohésion de l'État-nation. Et on savait exactement ce que c'était que... ce que représentait cet État-nation. Les États-nations, tels qu'ils se sont retrouvés tout seuls face à eux-mêmes après les guerres d'indépendance, comme c'est le cas par exemple en Algérie, et c'est très fort dans le cas algérien en 1962, sont des États-nations qui sont un peu orphelins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur père et leur mère, qui sont non pas issus du colonisateur, mais issus de l'histoire très ancienne de ces territoires-là, qui comporte des histoires, la vie des tribus, la vie des régions, des territoires et des peuples qui les occupent, ainsi que des différentes cultures qui sont présentes au sein d'un même pays. Et donc l'Algérie, c'est très fort en Algérie, parce que l'Algérie a beaucoup souffert de la guerre des colonisations, et puis d'une colonisation qui était un peu plus marquée que dans d'autres États voisins. Et l'Algérie est vraiment très orpheline de ce passé-là. Et donc, elle devrait pouvoir, si on voulait un jour que l'État-nation algérien signifie quelque chose, et on voit bien avec les manifestations qui secouaient toute l'Algérie un petit peu avant la crise du Covid. La crise du Covid a éteint un petit peu, a arrêté un peu tout ça. Mais les rancœurs ne sont pas éteintes. C'est que il suffirait de rallumer un peu les braises pour que ça recommence après le Covid. Ces manifestations montrent bien que l'État-nation tel qu'il a été construit par le Front de Libération Nationale a coupé les Algériens de leur histoire, de leur passé et de leur patrimoine. De manière qu'il a autant acculturé que la colonisation française elle-même. Donc ils ont été doublement acculturés, ils ont souffert de 200 ans d'acculturation. Alors vous me direz, en ce qui concerne le cas algérien, tout n'est pas perdu, parce qu'on sait que nous, par exemple en France, on a quand même subi 6 siècles de colonisation romaine. Donc on a été acculturé pendant 600 ans. Enfin, on a mis 600 ans, ce qui fait que nous sommes les Français que nous sommes aujourd'hui, c'est pas seulement notre histoire d'avant la colonisation romaine, c'est les 600 ans de la colonisation romaine, plus l'histoire qui est avant. Donc il faut retrouver, il faut fouiller dans le passé pour comprendre. Et l'Algérie doit faire ce même travail. Mais 200 ans, c'est beaucoup moins long que 600 ans. Alors on peut se dire, peut-être qu'on peut avoir un espoir et que ça va mettre moins longtemps pour qu'on puisse se construire une identité. Quoi que vous me direz, on a fait beaucoup en France pour que l'État-nation ne soit pas vide de sens. La nation française représente quelque chose, mais on n'a pas encore, on n'est pas encore vraiment arrivé à définir notre projet de nation de manière très très concrète. On a beau faire des commémorations, on a beau remettre en avant notre belle histoire de France, notre état-nation, notre projet de nation n'est pas encore bien défini. Voilà, donc j'allais le dire, hein, même si on a une histoire qui s'est construite en commun et qui est très importante, mais pour l'instant, on voit bien qu'en France, il y a des troubles et que ces troubles-là empêchent là aussi la France d'avancer. Donc, tout comme Benjamin Stora, j'essaye un petit peu de comparer les deux pays. Je le fais de manière très maladroite. Je ne suis pas historienne et je n'ai pas autant de connaissances. Mais quand même, il me semble qu'on peut faire un parallèle entre l'histoire de ces deux pays. Et d'ailleurs, lui-même le fait dans son rapport puisqu'il nous dit « La longue durée favorise la construction progressive de deux imaginaires différents ». Et s'il dit ça, c'est pour mieux marquer le fait que l'Algérie et la France n'évoluent pas en coopération en parallèle. Elles ont deux imaginaires différents, mais qui en même temps s'entrecroisent. Et c'est là toute la complexité et la richesse du phénomène. Alors, il nous parle d'entre-deux culturels et politiques, d'interstices favorisant des résistances à l'occupation étrangère, des batailles de Français qui n'étaient pas favorables au système colonial, des anticolonialistes intellectuels et militants, grâce auxquels, dès les débuts de la guerre d'Algérie, des ponts se créent et des ponts qui sont encore présents aujourd'hui et qui font que les rapports entre l'Algérie et la France continuent à évoluer de manière positive, malgré tout. Malgré tout, il nous parle des prêtres, des grandes voix catholiques qui se sont fait entendre contre la torture. Celle de François Mauriac dans l'Express en janvier 1955, avec son célèbre article « La question », le livre de Pierre-Henri Simon « Contre la torture » publié aux éditions du Seuil en 1957, des livres qui suscitent l'indignation, le sursaut moral, la lutte contre la torture. C'était une problématique qui touchait beaucoup de jeunes prêtres qui se sont alors engagés pour la paix en Algérie contre la guerre. Donc il cite l'abbé Béringuet, Henri Tessier... Des prêtres qui se sont particulièrement fait remarquer justement dans la dénonciation. Voilà, donc il n'y avait pas que des partisans de l'indépendance, des non-partisans de l'indépendance en France. Il nous parle aussi, comme Simon, non seulement des prêtres catholiques et de certains, mais aussi de la communauté juive d'Algérie, qui appartient également à ce qu'il appelle le monde intermédiaire, un monde intermédiaire sous-jacent, on pourrait presque dire que quelque part... que c'est l'underground des relations franco-algériennes, cette communauté juive d'Algérie a vécu en Algérie, elle s'est beaucoup sentie algérienne et elle est très importante parce que le peuplement juif d'Algérie est multiséculaire. Il date d'il y a très très longtemps. Par exemple, les Berbères, qui ont été islamisés à partir du 7e siècle, se souviennent qu'ils ont jadis appartenu, pour beaucoup, à des communautés juives ou à des tribus berbères judaïsées. Et ils parlent par exemple de Kaïna, la célèbre reine des Aurès. Ils parlent de juifs qui sont venus de l'Andalousie, parce qu'ils avaient été chassés par les musulmans pendant la Reconquista. Et la France, d'ailleurs, je rappelle le décret Crémieux de 1870 qui donne l'exercice de la citoyenneté aux seuls juifs. Et ça avait créé une polémique justement parce que les Algériens qui habitaient, les Franco de souche, eux n'avaient pas pu bénéficier de cette reconnaissance de la citoyenneté. Donc voilà. Beaucoup de juifs ne se sont pas prononcés pendant la guerre d'Algérie. Je voudrais juste dire que beaucoup n'ont pas été pour l'indépendance algérienne, parce qu'ils formaient une communauté importante et soudée, mais que beaucoup non plus n'ont pas répondu au chant des sirènes de l'OAS, comme le dit si bien Benjamin Stora. Donc voilà, beaucoup ont connu, ont partagé le destin des pieds noirs et sont retournés habiter en France. Ils sont allés habiter en France, pardon, là je dis n'importe quoi. Ils ne sont pas retournés habiter en France, ils n'avaient jamais habité en France de souche en fait pour beaucoup. Mais beaucoup d'ailleurs venaient soit du Moyen-Orient, soit d'Andalousie ou autre. Ils sont allés en France parce que, en même temps que les pieds noirs, parce qu'on les a chassés du territoire, parce qu'ils n'avaient pas participé à l'indépendance algérienne. Dans les composantes, bon, il nous parle des pieds noirs, il les met aussi avec ces groupes intermédiaires qui vont susciter, continuer à faire perdurer les liens entre la France et l'Algérie pour qu'il y ait une coupure qui soit toute relative, une coupure qui n'est presque qu'officielle et qui finalement n'existe plus quand il s'agit de communauté, d'appartenance. Donc il nous parle des pieds noirs qui, malgré la réussite sociale dans la France des Trente Glorieuses, gardent la mémoire du pays d'origine et qui conservent des liens avec les Algériens. Pour beaucoup, les Harkis, beaucoup sont récemment retournés en Algérie pour voir où ils habitaient, alors qu'ils avaient quitté l'Algérie tout jeune. Ça, ça compte aussi. Donc il nous parle ensuite des Harkis, ces Algériens qui ont combattu aux côtés de la France contre les indépendantistes, qui eux ont dû, bien sûr, pour échapper au lynchage, venir habiter sur le territoire français, autour de problématiques autour de laquelle se greffent beaucoup de rancœur, puisque beaucoup n'ont pas été jugés. On en a beaucoup parlé dans l'histoire récente, enfin des 30 dernières années, dans toutes les polémiques qui ont secoué la France, notamment dans les années 80, il fallait reconnaître que les Harkis avaient joué un rôle auprès de la France et il fallait leur donner des pensions et bien sûr les récompenser. Ils n'ont pas toujours été bien traités, mais il y a des liens qui se sont créés néanmoins. Et puis enfin, il nous parle des Algériens, et notamment des Algériens eux-mêmes, dont certains ont conservé des liens, même s'ils étaient pro-indépendance. Des liens avec les pieds noirs, des liens avec les Harkis, des liens avec les prêtres, et des liens avec les Juifs d'Algérie. Et puis ensuite, Benjamin Stora nous parle, en plus de tous ces groupes intermédiaires-là, qui touchent directement à la guerre d'Algérie elle-même et à la toute juste après-guerre. Il nous parle de deux autres communautés qui se sont rajoutées ensuite, qui fait aussi partie de ces groupes intermédiaires qui maintiennent le lien, qui sont les immigrés après la guerre d'Algérie. Donc beaucoup étaient pro-indépendantistes, mais ils sont venus en Algérie parce que la France menait une politique de peuplement et donc elle avait besoin de ces immigrés algériens pour venir travailler chez elle. C'était une politique de peuplement. Et même s'il y a eu parfois des fermetures de frontières, par exemple en 1961 ou autre, il y a eu cette politique de peuplement. Et puis donc aujourd'hui, les immigrés, ils sont issus de cette communauté-là, sont encore en France pour beaucoup. On les appelle la diaspora, donc il y en a beaucoup qui sont retournés habiter au pays, mais qui ont fait des enfants qui sont français. On en est pratiquement à la troisième génération après ces gens qui sont venus habiter en France dans les années 60 dans le cadre de cette politique de peuplement et pour des raisons liées principalement au travail. Et donc on en est à la troisième génération, une génération qui évolue avec parfois des côtés positifs et puis d'autres fois des côtés négatifs. Tout dépend de la manière dont l'État français gère ces populations-là, qui ne sont pas algériennes, qui sont françaises parce qu'elles sont nées sur le territoire français et dans le cadre desquels il y a des problèmes, une problématique qui se crée, c'est faire reconnaître à chacun qu'ils sont français, qu'on ne peut pas dire qu'ils soient algériens, qu'ils doivent faire pleinement partie de la citoyenneté à la française. La France d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui est une France qui doit intégrer ses générations, ses enfants de la patrie, dont les parents étaient algériens et sont venus habiter en France dans les années 60. Et tant que l'État français n'aura pas fait un travail de reconnaissance, qui est un travail qui est à la fois social, mais aussi un travail économique, la France ne pourra pas aller bien. elle ne pourra pas bien se porter. Et notamment les lacunes qu'on a pu observer au niveau de l'effort économique à réaliser et de l'effort en matière notamment de logement, d'accès au transport, de scolarisation, de mixité sociale et de non-ségrégation, s'est soldé notamment par cette période où beaucoup de ces enfants issus de la troisième génération, dont les parents avaient une culture, ont cherché à aller se trouver une identité dans une culture qui était très 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 différente de celle de leurs parents et du territoire algérien de l'époque. Ils sont allés la chercher auprès des imams qui ont été formés par l'école, des écoles wahhabistes, et qui les ont plus ou moins embrigadés. Certains issus de cette troisième génération ont participé sont allés en Syrie ou ont participé de manière plus ou moins active, selon les uns ou les autres, au terrorisme. Donc voilà. Donc on voit là à quel point là aussi il y a une certaine lacune, une certaine négligence de la part de l'État français. Et aujourd'hui, il y a cet enjeu-là, un enjeu double, un enjeu qui consiste à la fois à renouer avec l'Algérie de manière franche et coopérative, et puis qui consiste également, si on ne veut pas perdre d'ailleurs nous Français notre position privilégiée en Afrique du Nord, qui passe d'abord par l'Algérie, parce que l'Algérie c'est quand même le pays avec lequel il y a eu le plus de liens. Il faut absolument qu'on fasse un effort là-dessus. D'ailleurs, je pense que ça doit être la motivation du président Emmanuel Macron lorsqu'il fait ouvrir les archives, comme il l'a fait ce début 2021, des archives qui n'avaient pas été une certaine catégorie d'archives, dont on parlera que la semaine prochaine parce que le temps passe vite et l'émission est bientôt finie, du moins celle d'aujourd'hui. Et lorsqu'il commande le rapport Benjamin Stora, ou qu'il cite certaines phrases, ou qu'il dit certaines phrases, comme lors de sa campagne présidentielle, en disant que, en parlant de génocide à propos du fait colonisateur algérien par la France, là aussi, je pense que son but, c'est aussi d'assurer ses arrières par rapport à l'idée d'une France qui retrouverait sa position privilégiée avec l'Algérie et avec l'outre-Méditerranée. Et je pense notamment au traité des deux rives qu'il a mis en place il y a 2 ou 3 ans. Un traité qui pour l'instant ne parle encore que du fait culturel pour pouvoir commencer à faire évoluer les choses sans entrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais, ce que je ne veux pas dire que la culture, ce n'est pas important, hein, mais bon, il y a des questions très importantes. Il y a les questions liées à la défense, les questions économiques, les questions liées justement aux deux diasporas. Voilà. Donc, il y a déjà un premier pas de fait. Donc, mais c'est qu'un premier pas. Et puis, pour en revenir à Benjamin Stora, et je finirai là parce que le temps passe tellement vite que je n'ai pas le temps de dire tout ce que je veux. Je savais de toute façon que cette émission allait durer au moins 2 ou 3 séquences. Il y a les immigrés après la guerre d'Algérie, donc qui viennent d'Algérie et qui vivent sur le territoire français, avec une diaspora très riche aujourd'hui qui contribue beaucoup à alimenter aussi les liens entre la France et l'Algérie, qui contribue beaucoup à enrichir sur le plan économique aussi bien le territoire français que le territoire algérien. Et puis nous avons les Français qui sont non issus des souches de l'immigration et qui sont mécontents du mal-être social actuel. Et ceux-là, c'est ceux qui votent Rassemblement National et ceux qui se refusent à faire avancer le projet de nation française en ne voulant pas accepter la population française telle qu'elle est aujourd'hui. La France d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, n'est pas celle de la guerre d'Algérie. C'est une France qui est mélangée, qui est mixte, qui est métissée. Et je pense que si on veut que ça fonctionne correctement, il faut qu'on accepte cela. Donc voilà, c'est une émission qui est passionnante parce qu'on parle à la fois de problématiques proprement algériennes, de problématiques proprement françaises et on mélange les deux. Et je trouve que c'est très intéressant. Chers auditeurs, on ne pourra pas tout dire. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de passer une excellente semaine avec Med Résistance et toutes les émissions intéressantes que vous pouvez y entendre. Et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.